Alors, il y a 15 jours, David a débuté la série de messages qui va nous conduire pendant quelque temps à travers l'épître aux Colossiens. Et donc aujourd'hui, c'est la deuxième occasion de pouvoir le faire. Et ce matin, je suis émerveillé que ce soit le premier cantique. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais. Le thème de la présidence de Nasser, vos prières, les cantiques que vous avez choisis, ben je pense qu'ils sont tout simplement le commentaire de la lecture qui va nous occuper ce matin. Ça va venir bientôt, voilà, ça va venir bientôt. Alors, donc, la lecture qui va nous occuper, si vous avez vos Bibles, donc vous pouvez les ouvrir. Donc, l'épître aux Colossiens, au premier chapitre, et la partie qui va être la nôtre, ce sont les versets 12 à 23. Donc, Colossiens 1, versets 12 à 23. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre.
Alors, je ne sais pas si ça va lancer. Non ? Voilà, donc on verra, c'était juste au moins déjà pour vous afficher le texte que nous venons de lire. Alors, après cette lecture, je suis tenté de dire qu'il est difficile d'ajouter quelque chose à ce passage si profond. Cet écrit de Paul nous rend humbles quant à notre désir de parler de Jésus. Il a tout dit. Quelle responsabilité que ceux qui prennent la parole pour présenter Jésus. Alors, un certain Harold Kalemein, qui a été professeur de théologie à la faculté libre de théologie réformée d'Aix-en-Provence, a réalisé une analyse particulière. Et cette analyse a porté sur la totalité des messages protestants réformés radiodiffusés sur toute l'année 1997. Et elle montre de quelle manière, au travers de ces 55 messages radiodiffusés, de quelle manière Jésus est présenté. Et voilà ce que dit notre homme dans la revue réformée, je le cite. « Des centaines de prédications protestantes sont prononcées chaque dimanche en France. Est-il possible de cerner comment Jésus est présenté dans ces discours si divers? Rien n'est moins certain. La complexité de cette entreprise est considérable, des textes bibliques différents, des milieux ecclésiaux différents, des prédicateurs différents, des théologies différentes. Et en conclusion, donc, ce qui ressort de cette analyse est complètement effarant. Donc je le cite encore, l'image dominante de Jésus qui ressort de la majorité de ses prédications est celle que l'on pourrait qualifier d'un génial psy des psys, d'un sauveur qui dispense un salut thérapeutique. Cet équilibre psychique, tant recherché par nos contemporains. Quelle tristesse! Dans ce constat, j'aurais pas aimé être à sa place. Peut-on parler de défaillance des prédicateurs? Alors cet homme, j'en dirai pas plus, mais il est quand même revenu vers eux en leur rappelant leur responsabilité de la manière qu'ils doivent avoir de présenter Jésus. Alors j'espère, pas seulement ce matin bien sûr, mais que dans toute cette année, dans les messages ou dans les études bibliques, le thème c'est un si grand salut, eh bien que nous puissions présenter Jésus pour ce qu'il est vraiment, et non pas comme un sauveur thérapeutique. Alors Jésus, qui est-il? Donc comprendre sa personne, c'est surtout la partie des versets 15 à 19. Alors plus personne de nos jours, bien sûr, ne nie que Jésus a vraiment existé. Néanmoins, on peut croire à l'histoire et donc à la réalité d'une personne sans pour autant croire en elle, sans pour autant avoir foi en elle, en ce qu'elle a fait ou en ce qu'elle est réellement ou ce qu'elle représente. Plus personne non plus ne nie ce que Jésus a accompli, tant les témoins sont nombreux et dignes de foi. Néanmoins, on peut accepter les faits et gestes d'une personne sans pour autant croire et réaliser le sens et la portée de son action. Alors nombreux sont les témoignages extérieurs à la Bible, c'est-à-dire hors du cadre religieux, qui atteste Jésus et son œuvre. Bien sûr, la Bible, parole de Dieu, affirme haut et fort que Jésus est réellement, que Jésus a réellement existé, tout autant qu'elle déclare avec grande précision la nature et l'œuvre de Jésus-Christ. Les apôtres, eux, revendique le statut de témoin oculaire. Et Luc, dans son évangile, s'appuyant sur ses témoins, a souhaité participer lui-même à cette transmission et exposer l'origine et la réalité de tout ce qui concerne l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean, dans son récit de la crucifixion, dira ceci: celui qui rapporte ces faits les a vus de ses propres yeux et son témoignage est vrai. Si donc la vie de Jésus n'est ni contestable ni contestée, reste quand même la question: qui est-il vraiment? Alors d'un côté, l'humanité tout entière, captive de son état de péché, n'a pas ou n'a plus de part en Dieu, ni la capacité propre de s'en approcher. D'autre part, les chrétiens, pour les chrétiens, Paul a souvent prié et réclamé à Dieu dans ses prières qu'il soit rempli de connaissances. Pour les deux catégories d'individus, Seule la personne de Christ peut redonner une place de Dieu, une place en Dieu, et faire connaître le mystère de Christ. Ça y est, le mot est lâché. Mystère. Mystère de Christ. En effet, comment parler de la personne de Christ sans parler de mystère de Christ? Paul a reçu, nous le savons bien, une révélation particulière, et parmi ces mystères révélés, il y a le mystère de Christ, sa venue, son œuvre, son rôle dans l'Église, son prochain retour, etc. Autant de sujets qu'il serait nécessaire d'aborder sur ce thème, mais que le temps ne me permet pas de faire. Si Christ est un mystère, Paul écrit néanmoins aux Philippiens que Christ était pour lui la chose la plus excellente pour laquelle il renonçait à tout. Si l'homme refuse d'entrer, d'accepter Christ, d'accepter de Christ ce que la parole de Dieu en dit, c'est-à-dire qu'il est Dieu incarné, le mystère ne peut pas lui être révélé. La doctrine de la divinité de Jésus-Christ n'est pas simplement une doctrine parmi d'autres. Elle est la pierre angulaire du christianisme. Mais c'est aussi la plus combattue. Or, sans elle, sans la divinité de Jésus-Christ, tout le christianisme, ainsi que l'œuvre de Christ ramenée à une simple action humaine, s'écroule et notre foi est vaine. Alors, de nos jours, différents groupes de personnes tentent de nier cette doctrine. Cette doctrine qui est commune, je dirais, aux trois branches du christianisme, catholique, protestant, orthodoxe. Par exemple, les témoins de Jéhovah et les musulmans représentent deux groupes de personnes qui nient activement cette affirmation du message biblique et chrétien quant à la divinité de Jésus-Christ. Dans notre passage biblique que nous avons lu, nous trouvons la mention « premier-né de la création ».« Premier-né de la création ». Et selon les témoins de Jéhovah, cette expression affirmerait que Jésus a été créé par le vrai Dieu, le Père, qu'il a été sa première création, et donc que Christ n'est pas Dieu, mais si bonne soit-elle, une simple créature de Dieu. Alors pourquoi est-ce que nous réfutons une telle lecture? Parce que cette interprétation ne tient pas compte de la notion biblique et culturelle derrière l'idée du premier-né. Alors, quelques explications. Certes, dans certains cas, dans de nombreux cas même, cette expression peut être prise de manière littérale. Je vous en donne un exemple. Genèse 41, verset 51, il nous est dit « Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Dans cet exemple, l'expression « premier-né » doit être prise littéralement, car il est question tout simplement de l'aîné d'une fratrie. À l'époque de l'Ancien Testament, le fait d'être le premier-né donnait à celui qui l'était une autorité supérieure, une prééminence sur le plan social, c'est-à-dire une position supérieure en dignité, une suprématie, c'est-à-dire une situation dominante, une puissance supérieure. Exemple, Genèse 49, versets 3 et 4. Ruben, toi, mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. C'est-à-dire que tu n'auras pas la supériorité, la suprématie. Dans ce passage, il est clair que, naturellement, le fils aîné de Jacob aurait dû avoir la supériorité sur ses frères, à cause du fait qu'il était né le premier, ou en premier. Cependant, lors de la bénédiction paternelle, Jacob a privé Ruben de ce statut. Ce statut de privilégié lié au fait de naître en premier découle l'étroite association à la supériorité sociale. Une autre lecture donc s'impose à cette expression « premier-né de la création ». Un spécialiste des religions du Proche-Orient a écrit ceci. Les indicateurs de prééminence en lien avec le fait d'être le premier sont présents partout dans le monde gréco-romain. Par exemple, le titre officiel de César, princière, veut dire premier citoyen. Flavius Joseph utilise les termes les premiers pour faire référence aux dirigeants de n'importe quelle organisation gouvernementale. L'expression premier-né peut donc faire référence à la position la plus élevée hiérarchiquement, sans nécessairement impliquer le fait d'être né le premier. Manuel Valls, premier ministre. Est-ce qu'il n'y a pas eu de ministre avant lui, ou est-ce qu'il est le plus important des ministres? Un dernier exemple biblique qui confirme clairement cette lecture du premier-né, c'est le psaume 89, verset 26-30. Lui, c'est-à-dire le roi David, il m'invoquera, tu es mon père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, c'est-à-dire Dieu, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Il apparaît clair ici que Dieu ne va pas rembobiner l'histoire de David pour le faire renaître avant ses frères. David était le plus jeune et il le restera jusqu'à la fin de sa vie. L'expression « être premier-né » est ici, dans cet exemple, indéniablement une image, excusez-moi, pour parler de la supériorité que Dieu donnera à David. De la supériorité que Dieu donnera à David. Ainsi, dans Colossiens, nous trouvons cette association faite entre premier-né et la supériorité, la royauté, la divinité de Jésus-Christ. Colossiens 1, 13. Le Père nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, royauté de Christ. Colossiens 1, 16. Car en lui, Christ, a été créé dans les cieux et sur la terre ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, prééminence, supériorité de Christ. Donc Paul argumente pour la prééminence, la primauté, la supériorité de Christ due à sa préexistence, en rappelant au verset d'Ithèse que Christ est avant toute chose, que toute chose existe par et pour lui, c'est le verset 16, et toute la plénitude de Dieu en lui, verset 19. Colossiens 2,9. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Plus clairement, la plénitude de Dieu s'est toujours plu à habiter en lui. Et Philippiens 2, lui, Christ, qui était dès l'origine de condition divine. Ainsi, Jésus-Christ, déclaré Fils de Dieu avec puissance, n'est pas un imposteur comme le suggèrent nombre de sectes et de nos contemporains. Il est Dieu, pleinement Dieu. Un imposteur recherche la richesse. Christ s'est fait pauvre. Il a vécu dans l'humilité, la simplicité, et se plaisait à se présenter comme fils de l'homme. Un imposteur recherche le pouvoir. Christ n'est pas venu pour combattre et régner sur la terre, mais il est venu comme un serviteur. Un imposteur recherche l'approbation des gens. Christ a dénoncé le péché des hauts placés comme celui des gens simples. Et pour cela, pour cette raison-là, il a été toute sa vie l'objet d'opposition et de rejet. Voilà ce qu'est Christ. Il est avant tout Dieu incarné, souverain, maître, supérieur en puissance, en dignité. Et c'est ce que vous avez dit, chanté, prié ce matin. Alors maintenant, Jésus, qu'a-t-il fait? C'est plutôt les versets 13 et 20. Alors souvent, quand nous allons dans les cimetières, les épitaphes que nous pouvons lire sur les tombes résument ce que la personne a été ou ce qu'elle a fait ou bien ce qu'elle a apprécié ou ce dont il faut se souvenir la concernant. Et si je peux m'exprimer ainsi, vous me pardonnerez, nous pouvons dire que la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont l'épitaphe de sa vie. Quelle a été sa vie? Sinon un don de service et de soi. En quoi faut-il se souvenir de lui? De son obéissance volontaire et exemplaire pour nous? De ce qu'il a pris nos fautes pour nous en laver? De ce qu'il a subi la condamnation pour nous en délivrer? De ce qu'il est ressuscité des morts pour changer notre espérance en assurance? Sa vie et son œuvre attestent qui il est réellement, c'est-à-dire Dieu incarné. La fin de sa vie, sa mort sur la croix, est l'élément clé qui permet de comprendre le sens de sa vie. Pas plus qu'il n'est un imposteur dans ce qu'il est, sa nature, Jésus-Christ n'est pas non plus un mercenaire dans ce qu'il fait, dans ce qu'il accomplit. Un mercenaire recherche son propre intérêt. Jésus-Christ n'a recherché d'intérêt que le nôtre. Il n'a pas fait cas de sa propre vie. Philippiens 2, il ne chercha pas à profiter de sa condition divine, mais il s'est dépouillé lui-même. Un mercenaire ne travaille que pour un salaire. Christ n'a pas vécu pour un salaire, mais pour payer le prix de notre rançon. Lorsque l'on présente un auteur, on dit qu'il est l'auteur de tel ouvrage. Lorsque l'on présente un compositeur, on dit qu'il est l'auteur de telle musique ou de telle symphonie. Pour une personnalité, on essaie de dire ce qui la caractérise vraiment. Et ce n'est pas toujours facile que de résumer une personne à une caractéristique. Dès le début de son ministère, comment Jésus a-t-il été présenté à ses contemporains? Qu'est-ce qui caractérise vraiment son œuvre? Nous pensons que Jean-Baptiste n'a pas raté sa présentation de Jésus-Christ. Alors même que j'en parle depuis plusieurs minutes, tout en étant convaincu de n'atteindre que très très partiellement mon but, Jean-Baptiste, lui, a su en quelques mots présenter de manière parfaite la personne de Jésus-Christ. En une seule phrase, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si on veut présenter Jésus, nous devons dire ce qu'il est. C'est ce que nous avons vu précédemment. Mais également dire ce qu'il a fait. Et ce qui caractérise son action. ce qu'il a accompli, l'œuvre qui ôte le péché du monde. Voilà ce qui distingue Jésus de tous les autres hommes et de tous les prophètes de tous les temps. Dieu, devenu homme en Jésus, a réglé pour toujours le problème du péché. Là est son œuvre. Qui est semblable à lui? Ou qui a accompli une œuvre semblable? Personne. Les imposteurs et les mercenaires sont ceux qui prétendent être le chemin, sans avoir accompli l'œuvre qui règle le péché du monde. Jésus-Christ l'a fait. Pour compléter cette caractéristique, il nous faut rappeler que de par son statut divin et son œuvre, la caractéristique impactante de Jésus est sa capacité à pardonner. Le sang du juste est seul efficace. Romains 3, tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Et un peu plus loin dans Colossiens, Paul nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Parce qu'il représente Dieu de manière fidèle dans tout son être, de manière fidèle dans ses paroles et dans ses actions, Jésus est l'image du Dieu invisible et son sacrifice est agréé du Père. Dans toute sa vie, comme dans sa mort, Christ n'a cessé d'œuvrer pour que le pardon soit possible. Et il l'est par son œuvre. D'où les propos de Paul dans les versets 21 et 22 qui nous ont occupés. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Alors, quelle conclusion ? Il me semble que ce texte de Paul aux Colossiens s'adresse en particulier aux chrétiens, avec un objectif bien précis, objectif que nous découvrons dans le premier verset du passage que nous avons lu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Rendez grâce au Père. En opposition à l'incrédulité de la nature humaine, pour le chrétien, remercier Dieu est vraiment un test de vérité et d'appartenance. Un commentateur de la Bible a dit ceci. Il n'y a pas de religion, pas de morale qui sache ce qu'est l'action de grâce si ce n'est les chrétiens qui se savent pardonner. Si ce n'est les chrétiens qui se savent pardonner. Ainsi, l'exhortation de Paul s'adresse à nous qui savons ce que nous devons et à qui nous le devons. Alors, on raconte certainement une histoire connue de beaucoup, qu'un soldat de l'armée de Napoléon fut condamné à mort pour avoir commis une faute très grave. Alors la mère du soldat a imploré l'empereur, et l'empereur lui a répondu que la justice exigeait la condamnation à mort de son fils. Point final. Mais la mère revient vers l'empereur et lui dit « Je ne demande pas justice, j'implore la grâce. Votre fils ne mérite aucune grâce, » répliqua Napoléon. « Sire, » dit la mère, « ce ne serait pas une grâce s'il la méritait. » Et c'est la phrase qui a déclenché chez Napoléon le fait de gracier donc ce soldat. Il en est de même pour nous. Ce que nous ne pouvons pas mériter, Dieu le Père nous l'accorde par grâce, par le moyen de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Amen.